Merci beaucoup, Bénédicte Letellier. C'était super. Vraiment, rentrer dans toutes les complexités du sujet, je l'ai trouvé très stimulant et émouvant. Merci. On peut passer tout de suite aux discussions, aux questions et aux commentaires. Je vous invite à vous exprimer.
Est-ce que je peux, j'aurais des questions et des commentaires, mais juste pour commencer, une question de langue et de contention. À un moment donné, au début, vous avez parlé, est-ce que j'ai bien compris que c'était au moment où il s'est choisi lui-même le nom de poète Adonis, qu'il a dit, c'est pour lui une migration de la patrie de moi vers celle de l'autre.
Oui.
C'est ça. Et vous voyez, vous vous rappelez en arabe comment il a dit exactement, et patrie, quel est le mot en arabe?
Non, parce qu'il l'a. C'était une interview, si je me souviens bien la diapo, c'était une interview et en français.
Ah, c'était en français qu'il a dit ça?
Oui.
D'accord, une migration de la patrie de moi vers celle de l'autre. Mmh, okay. Mmh. Donc, non, ça c'était juste une question de langue. Après, j'avoue que. Bon, du coup, je vous parle d'un coup. J'ai un petit malaise à vous écouter. Voilà. Et j'ai un petit malaise, pourquoi? Parce qu'effectivement, associer le féminin à la poésie, c'est quelque chose qui se fait souvent. Je connais Char, Rimbaud, Rilke, etc. On entend souvent de la part des poètes eux-mêmes ou des chercheurs qui travaillent sur la poésie, cette affinité entre poésie et féminité. Et c'est normal, parce qu'à ce moment-là, enfin je vais dire c'est normal, ça nous parle, bien sûr, si on considère à ce moment-là le féminin comme étant tout ce qui est du côté de l'informe, de cette liberté libre que vous avez très bien expliqué, etc., de tout ce qui s'oppose à la rationalité instrumentaliste, au contrôle de soi, au sujet souverain cartésien, allez, pour être court, hein, voilà. Mais on est quand même, on reste dans une opposition qui est une construction historique, culturelle, etc. Ce qui me gêne là un peu, c'est de parler du féminin, enfin, vous savez, comme si c'était du coup effectivement l'essence du féminin, un truc comme ça. Parce que bah, ça fait des siècles qu'on met le féminin du côté de l'informe, pour après, et dans la réalité, ça reste l'autre sexe. En fait, voilà. Disons, ça me gêne de ne pas y mettre une réflexion critique du fait que c'est quand même aussi une construction culturelle. Enfin, le fait placer le féminin du côté de l'informe. Il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ça, et deuxième remarque à la limite, je ne sais pas si vous connaissez l'expression de Lucie Rigaret qui, dans les années 70, a beaucoup travaillé sur le féminin dans l'écriture, etc., et qui utilise le terme de matière-corps silencieux. La matière-corps silencieux, et que souvent le continent noir, enfin, le féminin comme étant le continent noir, ben, en fait, que la matière de l'écriture poétique de façon générale, pas que de la poésie, mais de la fiction aussi, du moins de la fiction moderne, eh ben, c'est cette matière corps silencieux, cette informe, qui justement dans la fiction moderne, contemporaine, c'est avec ça que l'écrivain travaille à la base. Et c'est ça qui enfin, de ça, comme vous avez dit, qui module, etc. Donc, quelle est la différence justement de la poésie par rapport à cette informe? Je ne sais pas si c'est assez clair ce que j'ai dit, mais bon, voilà, j'ai juste en fait réagi un peu à ce que vous avez développé par rapport à, disons, cette assignation du féminin à tout ce qui est informe.
Et peut-être que quelqu'un veut répondre, hein, d'ailleurs, parce que je n'ai pas forcément à répondre personnellement. Mais...
C'est bien rentrer dans l'échange.
Oui.
Et du coup, il y a un malentendu sur la performance.
Ah oui, là, c'était...
De ça. Mais on peut partir de ça, parce que... cet aspect construit de l'identité de genre. Bon, quand Judith Butler parle de performance, elle ne parle pas de performance autant au sens de réussite sportive, réussite... Elle parle à partir des actes de langage et de la manière dont l'identité genrée se construit dans le genre.
Mais il y a la construction dans le genre.
Et dans le discours, je dans le discours. Et là, non, c'est par là que je veux faire... essayer de faire un lien avec ce que tu as dit, et c'est que Je m'interroge sur le moment où, d'accord, il y a cette dimension corporelle, le féminin c'est la création, c'est le corps, mais ça s'est inscrit, je me demande, enfin je vais me remémorer dans l'œuvre d'Adonis, hein, que je l'ai lu en fragments, enfin je ne sais pas, ouais, à quel moment c'est apparu de manière centrale. C'est-à-dire que ce motif central, il a sans cesse cherché comme critique culturelle, poète et critique culturelle arabe, dans la culture arabe, des éléments de critique de cette culture. Donc ça a été, c'est le soufisme, c'est la poésie pré-islamique, c'est les poètes brigands, c'est toutes les formes d'hérésie, et il trouve dans le féminin. Donc le féminin fait partie de, il le performe dans la, dans sa, en un sens, c'est-à-dire qu'il s'appuie, enfin il le performe pas au sens de la verbe, mais c'est dans sa critique culturelle en tant que poète et critique culturelle qu'il va valoriser à un certain moment la part du féminin, tout à la fois dans sa poésie et dans sa relecture de figures comme la figure de Agar. Moi c'est le texte où j'ai découvert ça. Et pour aboutir à une question, c'est à quel moment cette valorisation du féminin apparaît de manière centrale chez Adonis ? Parce que c'est très important, alors dans les entretiens, dans ce livre, Histoire, des choses. Donc c'est très important à ce moment-là, mais il me semble que c'est un motif qui apparaît pas tout de suite, sans remonter, vous savez, à 1950, mais qui n'apparaît pas tout de suite, qui apparaît dans les 10, enfin, 20 dernières années. Donc ma question, c'est à quel moment ça apparaît et pourquoi ça apparaît ?
Alors, c'est une question très précise. Je dirais que ça apparaît avec El-Kitab. Avec El-Kitab, de manière très franche. C'est-à-dire que, comme on le voit dans El-Kitab, il y a ces portraits de Sajjad, et c'est fondateur pour lui à ce moment-là comme une voie de une autre voie, un autre cheminement. Effectivement, on peut reprendre à partir de la performance. Et je comprends le malaise parce qu'en fait, il a deux façons de il y a deux chemins qu'il fait et à chaque fois le départ n'est pas le même. Et c'est important de le préciser quand même, mais je ne sais pas s'il le précise. Dans son discours critique qu'il a, et qui est effectivement un homme de lettres et de culture, il va partir des concepts de tout le monde. Et tout ce que vous venez de dire sur le féminin, le masculin, il va partir de ses contradictoires, pas forcément contradictions, mais de ses contradictoires dans le discours critique. Et donc on le voit réapparaître dans les discours. Moi j'ai tout mélangé aussi ici, hein, dans mon approche. J'ai voulu avoir une approche, comme je l'ai dit, de divers points de vue. Et lui il le fait aussi. C'est-à-dire que dans le discours, il ne peut pas faire autrement, puisque c'est du discours et que c'est un échange réflexif, que de partir des concepts et des définitions de tous. Donc on est dans cette reproduction de et apparente contradiction avec sa poésie. De d'où part-il ? C'est très important cette question parce que sa poésie, à l'inverse, ne part pas des concepts. Un peu comme Heidegger disait que le concept insulte la chose. Eh bien, Adonis part de la chose et non pas du concept dans sa poésie. Et donc, c'est pour ça que nous sommes mal à l'aise, peut-être, au départ, dans sa poésie ou dans sa façon de réfléchir. Et quand on met le tout ensemble, parce que tout simplement, il ne parle pas. Et il ne part pas du même point de vue, du même départ. Ils n'ont pas le même départ. Donc sa poésie, pour moi, elle n'est pas son discours critique. Le discours critique est destiné à un large public. Sa poésie n'est pas forcément, il le sait, destinée à quelqu'un précisément. Elle est là parce qu'elle le traverse et qu'il écrit. Mais ce n'est pas du tout... une poésie, justement, lui, il accepte toutes les étiquettes. Hein. Mais je trouve que le terme intellectuel ou intellectualiste, c'est pas ce qui décrit sa poésie le mieux. C'est un intellectuel. Il est extrêmement. Il a écrit une thèse, son essai, il écrit des articles. c'est un intellectuel, mais il fait la part des choses. Il fait vraiment la part des choses. Dans sa poésie, il ne part pas du concept, il part de la chose. Et je crois que nous avons énormément de mal, un peu comme les peintres qui disaient que finalement, c'est quelque chose, ce n'est pas un concept, c'est une expérience, que nous sommes vus par les choses et que nous existons. C'est quelque chose, c'est rare. On voit les choses et on les dépeint. Maintenant, il y a des peintres ou des poètes qui partent de la chose et qui disent qu'ils sont vus par la chose, d'où les métaphores, d'où l'accès à autre chose qui s'appelle le féminin et qui ne part pas des définitions et des concepts que l'on a dans le discours critique. Donc en fait, ce qui se retient, si on mêle les deux, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est facile, d'un côté il fait ceci, de l'autre il fait cela, et où est le vrai Adonis, en quelque sorte? Tout simplement parce que je reprendrai ce qu'il dit dans cet essai « Soufisme et surréalisme » et que les surréalistes ont évoqué aussi, c'est-à-dire que ce dont vous parliez, que la poésie prend la féminité, oui, mais il y a ceux, et là il faudra entrer dans le détail, de cette tradition qui prennent le féminin, l'image du féminin, l'étiquette, la catégorie, qui sont dans une approche de la poésie qui est mentale avant tout. Et il y a ceux qui n'utilisent pas forcément cela et qui vont au final constater qu'il y a une affinité, mais qui ne vont pas forcément le dire, l'exprimer. C'est deux choses différentes à mon sens. Et qui vont faire une distinction entre l'image, la représentation, le dessin et la métaphore et l'accès à autre chose. C'est infini parce qu'il y a vraiment tellement de cas différents que mais je pense que c'est de là que peut venir le malaise. Et donc pour moi, Adonis, il reprenait tout simplement cette idée mystique qu'il y a des polarités contradictoires. Des polarités, des contradictoires, pas des contradictions, des contradictoires comme dans le monde physique, il y a des polarités, il y a un pôle nord, un pôle sud, et même conceptuellement, on peut s'entendre sur les définitions, puisqu'ils ne sont pas localisés au même endroit, tout simplement, dans le même espace. Ces polarités ne sont pas pour autant un conflit, une dispute, une séparation, quelque chose qui n'aurait rien à voir, et retomber dans le binarisme, non. Je pense au contraire que, et c'est ce que dit Adonis dans cet essai, que les contradictoires sont le terrain expérimental premier de cette unification, de cette unité qui est un accès à la masculinité, la féminité, qui ne sont plus des pôles de représentation de quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment une gymnastique qui est effectivement pas évidente à concevoir tant qu'on n'entre pas réellement dans la poésie. Et qu'est-ce que ça veut dire entrer dans la poésie? Je crois que ça veut dire se laisser regarder par le poème comme par une chose qui nous regarde. Nous sommes vus par les choses, c'est leur donner une existence. Et bon, là, on ne peut plus parler de féminin, de masculin comme on l'entend dans le discours critique ou réflexif. Enfin, pour revenir sur la performance, et enfin je laisse la parole, pour moi la performance, même si Judith Butler ne dit pas effectivement c'est une performance sportive, oui, mais elle emploie un mot qui reste que un enfant avec des schémas, un cadre donné, va avoir une performance, et il s'agit bien de performance avec l'idée de d'entrer dans quelque chose de déjà construit. Adonis ne parle pas de déjà construit, enfin, il parle toujours d'identité inachevée, et c'est la raison pour laquelle c'est le premier à accepter tout type d'étiquette qu'on lui donne. Il n'en a pas vraiment, il n'en fait pas une affaire personnelle. Et donc, je
c'est ce que dit Judith Butler, performance, c'est justement inachevée.
Non, c'est pas parce que sur la performance inachevée, c'est dans l'idée qu'il y a un socle, un schéma,
je soutiens absolument ce qu'a dit Stéphane, c'est vraiment votre lecture de Judith Butler, excusez-moi,
oui.
Là, c'est vraiment, sur la performance, c'est pas juste. Parce qu'elle dit exactement, elle est norme, mais bon, on peut passer ça, mais juste pour ça, c'est quand même important.
Oui, oui, dites.
Parce que les normes du genre pour Judith Butler, c'est quelque chose qui est dilué, mais de façon extrêmement subtile dans le
oui, ça, j'ai compris.
Mais pas que dans le discours, d'ailleurs, aussi dans le corps.
Dans le comportement.
Dans les gestes, dans le corps. Mais quand elle parle, par exemple, des jeunes enfants, etc., dans leur construction identitaire, performance, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a quelque chose de construit. Au contraire, il faut plutôt l'entendre comme un jeu, c'est une espèce de jeu.
Mais
c'est par
l'itérativité,
c'est par la répétition de certaines choses que, du coup, l'identité genrée va se construire.
Oui.
Mais c'est... Voilà, et justement, il y a une marge de liberté, etc. C'est...
Mais je sais.
Et la performance, elle n'entend pas du tout comme...
Non. Ça reste
une prouesse technique sportive.
Non, je suis d'accord. C'est pas une question de prouesse technique sportive, mais il y a ce départ qui, dans l'idée de, il y a pas, c'est pas un exercice. Elle ne parle pas d'exercice. Elle ne dit pas je vais m'exercer. Elle ne parle pas du masculin et du féminin qui s'exerce dans l'un, dans un cas comme dans l'autre.
Non, elle dit que c'est pas défini de toute façon.
C'est ça. Mais oui, mais cette liberté est très restreinte parce qu'elle parle bien elle parle à partir du point de vue pas de la mystique, d'une science des cadres sociaux. C'est ça. Voilà.
Mais je pense.
Il y a pour moi
le. Pas le dire si on n'a pas l'esprit clairement.
Oui.
D'accord,
peut-être que. Mais pour moi, c'est là que se joue la création de l'identité, et c'est ce qu'elle entendrait plus comme il y a du jeu dans la porte, ou dans un. Pas le jeu au sens ludique, mais le jeu au sens ça travaille, et ça il y a un espace de. Oui, mais malgré ça, je maintiens quand même, il me semble avoir bien compris, et peut-être que ma façon de le dire est un peu radicale, parce que je voulais comparer et ça, mais ceci dit, je pense que la performance telle qu'elle l'entend n'est pas l'exercice tel que l'entendent les mystiques et tel que l'entendent, ni même l'identité inachevée n'a rien à voir avec l'identité même libre qui se construit librement dans le cadre de Judith Butler. Il y a une autre dimension que j'y vois chez les mystiques qui n'y est pas chez Judith Butler, mais bon. Je me trompe peut-être.
Alors, merci beaucoup, Bénédicte. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé le côté émotionnel et surtout cette relation entre Adonis et sa traductrice. Alors, j'ai deux petites questions par rapport à l'histoire, justement, en figure féminine. Tu as parlé de Sagère, donc.
Oui.
Pour lui, il a. Deux images ou deux figures féminines qu'il a analysées. C'est juste une question par rapport à sa poésie. Donc, comment il a vu Sagère? Parce que Sagère est une rebelle, parce qu'à l'époque de la lettre, c'est-à-dire la période où, après la mort du prophète, donc, il y a eu ce grand mouvement des tribus qui se sont détachées de Médine, donc de l'état de Médine. Donc Sagère a fait une sorte de marché, entre guillemets, avec Melk Mouel, c'est ça, donc un autre chef de tribu. Donc, mais Sagère a été vue à cette époque-là comme une figure féminine vraiment très, très problématique, parce qu'elle a osé venir donc de l'Irak. Elle est issue d'une tribu chrétienne, donc, et elle a fait ce marché avec un autre apostase ou un autre chef, donc dissident. Et la figure de Rabra al-Adawi, donc la grande soufie, donc pour lui le soufisme c'est l'espace de la femme rebelle, donc dans la civilisation arabo-islamique. Et moi, j'ai vu d'autres femmes rebelles à la même époque, à l'époque omeyyade, puisque je me suis intéressée à l'époque omeyyade, dans le palais du calife même, enfin, la femme du calife lui-même qui a osé avoir un amant, la femme de Khalif al-Walid Mohammed Malek, et le calife a tué l'amant dans sa chambre, il l'a enterré vivant et il ne l'a pas puni. Et aussi, cette figure-là aussi, elle allait au Hajj et dans une sorte de mawqib, donc impressionnant et tout, et avec toutes les libertés, elle était
libertine, libre.
Tout bon.
Et j'ai une autre question sur, sur l'amour platonique ou le hubb al-adhi. Donc, comment Adonis analyse ça, comment il voit ça. Voilà.
La première question, c'est est-ce qu'il a d'autres références
Comment il voyait Aïcha, par exemple.
En fait, il le prend de ces femmes essentiellement leur côté transgressif. C'est ce qu'il a le plus marqué chez ces femmes, Fatima ou d'autres. Il a retenu essentiellement cela. C'est clair que il le met en valeur en tous les cas, et c'est ça qui l'intéresse. Pour celle que tu as. Dont tu viens de raconter un petit peu l'histoire, je ne la connaissais pas et je ne l'ai pas vue.
Oui, c'est une figure problématique de l'histoire, de l'histoire des femmes arabes, parce qu'elle était chrétienne apparemment et a vécu une relation libertine avec ce chef de l'apostasie. Donc,
c'est qui?
C'est
Sagère. Ah non, Sagère, si.
Oui.
Si, je pensais que tu avais raconté une autre histoire. Non, d'accord. Non, il en parle aussi, oui. Et dans ce recueil de poèmes, oui. Et en fait, c'est leur histoire à partir d'une société donnée et de l'idée de pouvoir, et justement de cadre. La liberté, elle existe à toutes les échelles. Hein. On peut parler d'une liberté... encore une fois, à toutes les échelles, y compris sociales, etc. Même s'il y a des cadres, même si il y a toujours effectivement une possibilité d'eux. Mais ce qui l'intéressait, c'était de montrer à travers ces figures féminines la force de leur transgression. C'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté à un niveau individuel. Ça a véritablement été jusqu'à pour Rabia. Une écriture pour chacune d'entre elles. Bon, Sagar, elle est entrée comme une figure mythique presque de cette descendance. Donc en fait, c'est pour lui vraiment qu'est-ce qu'elles ont transformé dans le monde. C'est vraiment une question de justement comment, à partir d'une réalité donnée, ces femmes ont-elles transformé en elle et autour d'elle quelque chose. Et donc en fait, il n'y a pas que Saja. Effectivement, il y en a beaucoup, par exemple, donc El Kitab, où il décline plusieurs poètes, y compris pré-islamiques, mais aussi, de temps en temps, quand même des femmes. Elles ne sont pas dominantes, parce que finalement, il n'y en a pas non plus autant que de poètes. De la tradition arabe, mais il le dit lui-même, les poètes, de toute façon, aucun poète n'adhère à une religion dans tout ce qu'il. Il le dit dans sa préface au Diwan, une anthologie de la poésie arabe classique, où il le dit que pour lui, un poète n'a pas de. Les poètes arabes n'avaient pas. Ils pouvaient être inspirés par le texte et avoir une lecture du texte. Mais pour lui, c'est ainsi ce qu'il retient de cette histoire.
De toute façon, bravo, parce que moi, je le trouve très difficile, très abstrait à lire et tout. Donc, bravo pour cette analyse, parce que c'est l'un des poètes les plus durs à travailler à l'époque contemporaine, moi, je trouve.
Oui, on me l'a déjà dit. Richard Jacquemont disait qu'il préférait Mahmoud Darwish.
Oui.
Il est bien, il est apprécié.
Il écrit,
oui. Merci, c'est gentil. Et la deuxième question, c'était...
C'est à propos de l'amour platonique. Les poètes, Jamil Boufain,
oui.
Comment ils voyaient ça? Parce que tu as parlé de la matière, du corps, alors que c'est tout à fait le contraire.
Oui.
Tout à fait le contraire. C'est ce qu'on amusait à nous dire quand on était petit. Donc, mais l'amour platonique, alors, c'est quoi? Comment il le voit, lui?
C'est pas à partir de cette. En fait, d'ailleurs, je me rends compte que si il cite Leïla, Majnun Leïla, il cite ces couples que tu, ou Boussaina, ou Djamil Boussaina, il les cite, mais c'est vrai qu'il parle plutôt de figure féminine quand il doit montrer la, la transgression. Je pense que pour lui, amour platonique ou amour, ou ce qu'on pourrait dire comme le contraire, bon, c'est pas son sujet favori forcément. C'est, pour lui, c'est la même chose. C'est qu'une question de, là aussi, de lecture. De, c'est la même chose. Ce qu'il aime dans ses couples, c'est toujours pareil, la force de la capacité à dépasser, transgresser, là encore, des représentations et des conceptions de l'amour. Ça, c'est ça qu'il aime. Après, il n'en a pas fait un livre comme pour Sajar. Non, Ajar, cette femme, j'ai confondu les deux là. Mais il n'en a pas fait un livre spécialement... spécial... Oui.
À partir du moment où il y a transgression, est-ce qu'il n'y a pas cadre ?
Forcément. Oui, oui, bien sûr.
Parce que, voilà, enfin, quand c'est pas pour amener du monde de
non, mais je
c'est relire. C'est des cadres normatifs qui sont des cadres, si ce n'est sociaux, des cadres culturels,
oui,
des cadres
tout à fait.
Et très clairement, pour Adonis, ce que j'en ai perçu, c'est avec la figure de... Enfin, le féminin est transgressif à l'égard du religieux.
Oui, oui, il le dit. Oui, il le dit clairement.
Là,
oui.
Là, il y a... Donc, et c'est arrivé dans son poème, alors, dans El Kitab, dans certains livres. Enfin, c'est pas
les exigences,
mais
non.
Il y a des figures... Il y a aussi El Ramsa.
Oui, 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 c'est vrai.
De la poétesse, mais qui n'a pas un discours
non.
Féminin. Enfin,
non.
C'est
non.
C'est une femme qui compose, mais.
Non, c'est vrai. Le, d'ailleurs, je ne l'ai pas, oui.
Mais voilà, son discours sur le féminin. Alors, d'accord, il y a la part de l'intellectuel et le poète. Le poète a un rapport aux choses. Enfin, si la femme est une chose.
Attends. Tu es sûr de ce que tu dis là?
Je sais bien ce que je dis. Non, mais c'est pas un concept. C'est là. Parce que ding. Oui, donc ça rentre pour lui dans un mouvement. Dans les années 90, équitable dans les années 90, sa critique culturelle et son œuvre poétique. Alors, l'équitable, c'est pas centré sur ça, c'est centré sur la. C'est la continuation de son.
C'est surtout le texte.
C'est
le
canapé, un monument à la poésie des Arabes.
Oui, tout à fait.
Mais l'accent mis sur le féminin, c'est quelque chose.
Peut-être même.
Religieux.
C'est ça.
Une critique du religieux, et c'est très performé, du coup. Même si on aime le mot performé.
Non, c'est vrai. Non, Stéphane, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ce que tu dis est totalement vrai. Et on ne peut pas dire non. Parce que, encore une fois, c'est pas de la subtilité ou de la stratégie du tout. Et même quand tu dis la femme est une chose, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, mais enlevons les concepts. Et de même qu'il dit j'écris le vide est une chose. Donc là, on arrive dans un paradoxe. C'est-à-dire que la chose, c'est effectivement tout sauf le concept. Et ça, c'est très dur pour nous d'imaginer cela. Pourquoi ? Parce que, et pour lui, l'imagination, ce n'est pas l'abstraction. C'est vraiment l'idée de partir du matérialisme. Alors, son idée du matérialisme m'a longtemps posé aussi un malaise, parce que je me disais, oui, mais c'est très fin, ce discours, finalement, où on part, a priori, de tout le temps les mêmes concepts qu'on entend. Et puis après, dans la poésie de... Puis partir de là, de faire autre chose, mais quand même d'avoir des repères féminins, des figures. Et c'est pour ça que j'ai voulu montrer dans cet ordre qu'il y a le discours, il y a les figures, il y a comment, en fait, c'est ça sa vraie question. Comment voir le poème en toute chose ou le féminin qui est cette énergie, cette force de créativité. Ça ne veut pas dire que le masculin ne l'est pas important, ni qu'il n'est pas et qu'il est pareil. Il ne s'agit pas de ça. Moi, j'ai orienté sur le féminin parce que le féminin ouvre. Enfin, comment je vais le dire ? Le féminin permet de montrer une structure de l'espace à laquelle nous n'avons, enfin, qui nous est étrangère. C'est très clair. Qui nous est complètement étrangère. Et quand il dit ma patrie de l'autre, c'est l'étranger, c'est le féminin, c'est ça. Et quand il dit que tout ce qui part des cadres, comme tu dis, tu as raison. Oui, mais il faut aussi pouvoir, comme Michel Foucault l'a montré, que quelle que soit la société, bon, bah, Denis, lui, se focalise sur ce qu'il connaît, mais il faut le voir que l'esprit et la manière de penser est extrêmement masculine. C'est-à-dire qu'on connaît l'espace d'un point de vue extrêmement mal, même si on fait toutes ces divisions qu'on a l'habitude. Même un physicien parlera dans ces termes. C'est pas juste la poésie tout le temps féminine avec l'aspect féminin tel qu'on peut s'imaginer dans toutes ces dimensions esthétiques ou même philosophiques. Sarah Nicolescu lui-même en viendrait à des physiciens eux-mêmes. Ils voient une structure de l'espace différente et que les poètes appellent le féminin. C'est juste une question de mots, mais les choses, elles, sont quand même différentes. C'est pour ça que j'ai traduit, non pas en termes sociologiques, parce que sinon on retombe dans cette logique binaire, oui, mais alors il est comme tout le monde, il est... Non, c'est vraiment pas ça. Je maintiens ce que je dis, et je me coupe la main si c'est pas ce qu'il voulait dire. Je me coupe la main, mais vraiment, c'est pas. Il me semble avoir saisi, sans prétention.
Germaniste. Quand on dit le féminin, c'est l'étranger. Voilà. Le féminin, c'est.
Ou l'inconnu.
C'est l'inconnu. Toi, tu as l'impression de retomber sur un lieu commun.
Bien sûr.
De la poésie. Alors bien là, il y a une affaire de contexte.
J'ai envie de dire deux choses. En fait, je travaille aussi à un moment donné sur la poésie, enfin l'échange de poésie, Ingeborg Bachmann et Paul Celan, pour être court. Parce que Ingeborg Bachmann, donc grande poétesse autrichienne, très 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 importante pour la littérature de l'après-guerre, dans les pays allemands, et puis grande poétesse surtout qui tout comme Paul Celan, ont montré tous les deux qu'on peut très bien écrire après Auschwitz un poème, mais d'autres, une autre poésie, etc. Donc, et ils se sont connus en 1947 à Vienne, ils ont eu une relation passionnelle, conflictuelle, etc. Et en fait, il y a quelques années, en 2008, il y a les correspondances, ça s'appelait Herzzeit, temps de cœur, en fait, si je traduis Herzzeit, qui ont été publiées avec les correspondances donc, entre Celan et Bachmann. Du coup, j'ai un tout petit peu travaillé sur, si tu veux, pourquoi je parle de tout ça, sur leur rapport amoureux et le discours amoureux dans la poésie, et puis la dialectique aussi, l'influence de l'un à l'autre dans la poésie, parce que vraiment, ça circulait. Entre les lettres, leur poésie, leur relation empirique, si je puis dire, ça circulait beaucoup. Par rapport à l'étrangère, justement, par le Celan, il y a beaucoup de poésie où il parle de l'étrangère. Bien sûr, il y a l'étrangère, Judith, etc. Enfin, vous connaissez tous les poèmes, mais à un moment donné aussi, c'est l'étrangère, la femme aimée, l'autre, toujours. Et il y a dans les lettres de Bachmann beaucoup de résistance par rapport à ça, d'être toujours réduite à la figure de l'autre, d'être toujours réduite à l'étrangère. C'est très bien en poésie, mais dans le réel, ça te prive de voix en tant que femme. Et ce conflit-là, là, entre le réel et la fiction, la poésie, et le chant de l'étrangère, là, Bachmann l'a beaucoup formulé. C'est pour ça que je suis très sensible aussi un peu à ça, parce que je viens de là, si je puis dire. Et la deuxième chose que je voulais rajouter, ce que tu disais, je trouve vraiment très intéressant de voir. Je suis d'accord qu'il y a des polarités, évidemment, et puis on n'en sort jamais, il y a du féminin, du masculin. Il y a des polarités, mais ça glisse. Et ce qui, pour moi, personnellement, est toujours important, c'est de voir ça sert à quoi et à quel moment un poète, par exemple, c'était ta question, dans le cadre d'une critique culturelle, etc., à quoi ça sert à ce moment-là historique, par exemple. Et juste pour donner encore un deuxième petit exemple de l'espace germanophone, il y a ce qu'on appelle la modernité viennoise autour de 1900, avec des auteurs comme Schnitzler, Hofmannsthal, etc. Et là se développe toute une littérature en opposition au naturalisme, et qui, en allemand, on appelle ça Nervenkunst, mais qui cultive vraiment une sensibilité, une sensualité exacerbée, nervicum, ça veut dire l'art des nerfs, mais vraiment nerfs, on excite, on va au profond de quelque chose. Hein. Et tout ça, c'est du côté du féminin aussi, on peut dire. Et il y a des études féministes un peu plus récentes qui montrent à quel point c'est tous des écrivains masculins qui se sont quelque part appropriés un discours sur le féminin de l'époque. On est en pleine époque hystérie féminine, etc. On sort juste du 19e siècle. Donc, ils se sont appropriés un discours sur le féminin, vous voyez, sur l'hystérie, l'hypersensibilité féminine, etc. Mais, voilà, et qui s'androgynise, si je puis dire comme ça, dans leur littérature. Mais c'est aussi une forme d'appropriation de ce terme-là. C'est pour ça que j'ai toujours un petit malaise par rapport au à cette terminologie-là. Mais c'est tout.
Je comprends ce malaise. Et je dirais même personnellement, pas à Denis, je ne vais pas engager. Je dirais personnellement que c'est bien là toute la difficulté. C'est de pouvoir dire, quand on est femme et poétesse, ben moi aussi, j'ai un rapport à l'autre et à l'étranger qui est le même que le tien, toi, homme. C'est pas de faire croire que la femme et le féminin sont quand même deux choses, pour reprendre mon chose, deux choses distinctes. Une femme n'est pas forcément dans son féminin et féminine. Alors maintenant qu'elle se sente agressée ou pas, ou vulnérable, ou réappropriée, ou objectivée, c'est pas ça dont il s'agit. Encore une fois, il faut partir du point de vue mystique pour revenir à Adonis et voir que ce n'est pas juste un combat entre un homme et une femme, surtout dans une passion amoureuse. C'est, ou à des conflits, ou des douleurs, ou des souffrances, c'est vraiment l'idée plutôt d'objets et de sujets qu'on devrait employer dans ces moments-là, pour décrire d'un point de vue historique ce couple-là. C'est objet, sujet, et ça, forcément, c'est relatif, parce que le sujet, c'est le point de départ de celui qui va parler, et l'objet est l'autre. Donc on pourrait très bien dire que la femme objectivise l'homme de la même manière que l'homme objectivise la femme. Et ce n'est pas un problème, à dire vrai. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a toujours la croyance et le postulat que les deux sont séparés, que le sujet et l'objet sont différents, mais séparés. Ce n'est pas la même identité. Et là, on n'est pas du tout dans la même configuration que tous les discours politiques, sociologiques, etc. C'est juste dire, c'est ce que va dire tous les, ce que peuvent dire un, ce que peut dire un mystique, c'est l'idée que j'objectivise l'événement spirituel intérieur. Et ça, c'est pas une question de femme ou homme, mais de féminin ou masculin. Cette possibilité d'agrandir un espace, d'unifier, comme diraient les physiciens, un espace, ne relève pas, ça relève comme d'un courant électrique, je sais pas, d'une force qui est, c'est tout, mais ça n'a pas de rapport direct avec le sexe et le genre biologique, ni même toutes les constructions, et donc toute on reste dans une construction. Je maintiens quand même ce que j'ai dit, même si j'ai fait dire à Judith Butler des choses qu'elle n'a pas dites. Elle, pour moi, d'un point de vue mystique, elle reste dans une appréciation du féminin et du masculin qui est à partir d'un raisonnement et d'une pensée occidentale, je pense, occidentale.
Oui, mais aussi le fait que Adonis est en exil permanent. Enfin, il a quitté la Syrie en 1956, il y a très longtemps. Donc, c'est-à-dire que lui, il a en permanence aussi dans une posture de celui qui est dehors. Il est toujours de dehors. Et c'est une question comment cela impacte sa manière de voir le monde qui est traduit dans sa poésie, que ce soit sur le plan féminin ou masculin. Les choses se passent, c'est une décision qu'il a prise. Pour des raisons politiques, il part, il ne revient pas. Peut-être il revient pour visiter des gens, je ne sais pas. Mais je veux dire, il ne s'installe, il ne revient plus à son point de départ. Il est très jeune, il a 26 ans quand il part. Et donc, il n'est pas encore, il est dans la première partie de sa vie. Et beaucoup de choses se passent en Syrie. Il le voit de l'extérieur, ou quand les gens viennent, par exemple avec l'écrivain Hassan Abbas. qui a beaucoup réfléchi aussi sur, pas vraiment sur le féminin masculin, mais sur les concepts de dehors et dedans. Celui aussi, là, on en est maintenant. Mais avant, il vivait à l'intérieur. Et alors, c'est ça la question. Est-ce que. C'est intéressant parce qu'Adonis, c'est un homme, bien sûr, mais en même temps, le fait qu'il est dans l'exil. Il n'est plus rattaché physiquement, c'est une question difficile, physiquement à son pays. Il a ses attaches, c'est bon là. Mais ça se reproduit, je vais dire, il y a une certaine évolution sur son être, de celui qui est dehors.
Oui, et en fait, tu as raison, le débat n'est pas tant les polarités dont on a toujours l'habitude de... évoquer féminin masculin que dedans et dehors. Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est beaucoup plus proche du discours poétique, en fait, parce que, encore une fois, le dehors peut être, si on est homme, et ben ça sera femme, et si on est femme, ce sera homme. Et ça, c'est des polarités biologiques, comme il y a le pôle nord et le pôle sud. Et, voilà, au final, homme ou femme, on ne sait pas ce que c'est que la masculinité et la féminité. Pour moi, c'est vraiment important, et ce que tu dis est très vrai. C'est-à-dire que il a expérimenté physiquement cet exil, et il le dit de manière très sincère, cet exil de lui-même vers l'autre. Cet autre n'est pas uniquement la femme, il se trouve que, et le féminin, ou la féminité, c'est l'autre de manière globale, c'est-à-dire tout rapport avec le monde extérieur. C'est une question d'extérieur et d'intérieur, et plus que... Et ça... C'est pas juste un pôle, tout le monde peut l'expérimenter. C'est pas juste je sais pas ce que c'est que l'homme et je sais pas ce que c'est que la femme, c'est comment je peux réellement me dire j'ai vécu, j'ai existé dans ce monde-là, et qu'est-ce qui à l'extérieur me permet de comprendre que j'ai une existence dans ce monde, dans cette réalité. C'est plus de cet ordre. Et tu as tout à fait raison, le débat est beaucoup plus fécond dès lors qu'on parle en termes d'espace. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une conception de l'espace que nous n'avons pas forcément acquise. Et même pour les physiciens, c'est réunir deux physiques qui ne conçoivent pas l'espace de la même manière. Pour les mathématiciens, c'est la même chose, Euclide et Riemann. C'est vraiment une question de réel et de réalité plus que... homme-femme, et on voit c'est un homme, c'est une femme, c'est... Je pense que là, ça change la donne. Et que, évidemment, on peut toujours se sentir agressé par l'extérieur, féminin ou masculin, et qu'effectivement, c'est bien de cet ordre-là, c'est comment unifier l'intérieur et l'extérieur, adapter l'intérieur à l'extérieur, c'est la question première que pose un poète. Comment vais-je dire le monde ? Pas le décrire, pas le dire sans le dire. Dire sans... C'est donc, évidemment, que moi, je parle du féminin chez Adonis, et il a un discours dans le monde social et civil sur le féminin, comme tout le monde a sa position et son positionnement. Donc, évidemment, que quand on lui pose des questions, il y répond, il joue le jeu, il part des concepts, parce qu'il discute, sinon il ne discute pas, sinon il écrit que de la poésie, et il ne va pas réfléchir à ça. Mais comme il sait, et c'est d'ailleurs en discutant avec lui, j'ai écrit donc ces quelques suggestions d'analyse de son tableau et d'interprétation, je lui ai dit, tiens, ben, j'avais écrit ça, et qu'il m'a dit, ben oui, c'est ça, ben, les gens ne voient pas que j'ai fait des dessins, comme une autre porte, ajouter une autre porte pour entrer dans le poème ou dans cet espace que moi je vois et que je vis au quotidien, et qui n'est pas juste de la poésie. Là aussi, la poésie est un concept pour beaucoup. Est-ce que comment y entrer, comment être vu par un poème, être lu par un poème, c'est donc comment l'extérieur et l'intérieur s'échangent et communiquent, c'est une autre question. Alors ça met le doigt sur, oui, mais quand on parle du féminin, bah, on utilise le langage de tout le monde, et il y a ce binarisme auquel on est toujours attaché et auquel on revient très souvent, qui est une habitude, je dirais, de penser. Mais ce physicien dont je parle, lui-même ne parle pas que de la physique, et je sais que c'est encore très très difficile. On croit qu'il y a rationnel d'un côté et créativité de l'autre. Ce physicien, et je, je le remercie pour son travail parce que c'est un effort immense en France où on sépare la science dite dure, la science humaine, où même au sein de la science dite dure, je sais que voilà, un physicien ne sera pas mathématicien et ça, c'est encore cloisonné, mais ce physicien, Sarah Nicolescu, qui est ton collègue au CNRS, il joue sur toutes ces dimensions pour parler du réel. Donc c'est très important pour moi de le citer, parce que sinon on me dit j'ai pas compris ou j'ai pas saisi, mais je vous assure qu'il y a tout un monde, une structure de l'espace qui n'a rien à voir avec ce binarisme auquel nous sommes habitués et qui, comme il l'a dit Sarah Nicolescu, il existe un tiers caché. D'ailleurs, il connaît très bien Adonis, un tiers caché, aussi bien dans le monde physique que dans le monde de la pensée, qui nous permet d'approcher plus précisément ce qu'est la réalité, le réel. Donc c'est plus en ces termes-là, tu as raison, Randy, qu'il faudrait se focaliser.
Ça me fascine le fait que depuis si longtemps, quelqu'un qui vit en dehors de son pays... Est-ce que c'est vrai que ces références sont quand même encore très syriennes?
Non.
Arabe en général, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose de spécifiquement syrien?
Non. Non, parce qu'il a effectivement, et c'est finalement cette idée d'unification de l'espace culturel, pensé, et tu as raison, il n'utilise pas que des références syriennes, non, ça c'est sûr. Arabe, oui, parce que ça c'est quelque chose qui le tient à cœur.
Oui, mais je veux dire que des références... Oui, bien entendu, ça dépasse les confins de la Syrie, mais en même temps...
Il est très comparable, par exemple, je vais prononcer très mal parce que je ne suis pas hispaniste, à Roberto Juarros. Et sa poésie est extrêmement proche de ce poète. Donc, lui, il aime pas forcément ses poèmes soient forcément comparés comme une influence, je sais pas si c'est nécessaire d'ailleurs de parler d'influence, mais il est pas nourri que de la sphère arabe, non, ça c'est clair.
Oui, c'est sûr, mais je veux dire qu'il y a certains, je ne connais pas très bien ses œuvres, alors c'est je m'interrogeais là-dessus. Que les références, bien sûr, c'est en tout cas au départ, c'est ce qu'on connaît, c'est ça les références, et au fur et à mesure que la vie avance, on peut avoir d'autres influences, on peut aussi rester dans une sphère civilisationnelle ou culturelle qui était celui du départ, ce n'est pas son cas. Mais il y a au fond, est-ce qu'il y a au fond de lui-même encore des interrogations qui se posait il y a 50 ans. Est-ce qu'il y a un fil qui, chronologiquement, qui s'est évolué, mais qui est l'aboutissement des interrogations quand il quittait son pays il y a 50 ans?
Oui, moi je pense que ça a changé, cette poésie. Personnellement, je trouve que ça a changé et qu'effectivement, même s'il est, il a eu une grande affection pour les poètes arabes et qu'il en a beaucoup parlé dans sa poésie, il reste à la fin, enfin plutôt actuellement, de plus en plus récemment, c'est une poésie peut-être universelle, je ne sais pas si ça a un sens de dire ça, mais qui ne fait pas forcément référence à ce qui, à mon avis, l'interroge dans les sociétés arabes, c'est jusqu'à quel point une société peut s'ouvrir sans, ce qu'il a dit, hein, un lieu sans féminité est un lieu stérile. Et pareil, c'est ça qui l'interroge. Il voit que dans ces sociétés et dans ce monde arabe, c'est particulièrement visible. Cette situation montre à quel point on peut être arrivé à une... Mais c'est pas une influence au sens de... c'est plutôt un questionnement, je dirais, qu'il est voilà, ça le questionne, mais je pense pas qu'il soit dans une défense de quelque chose dans un côté ou dans un autre.
Non, mais parce qu'il me semble que la révolution a commencé pour lui bien avant celle qui se déclenchait il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans en Syrie. Et il a vécu la révolution lui-même, une auto-révolution, comme d'autres poètes, comme d'autres artistes. Mais alors, c'est une autre question. Et alors, la révolution qui a lieu ou qui continue, il doit avoir des jaillissements sur lui, sur sa pensée.
Ah oui?
Oui.
Mais il est engagé.
Oui, depuis longtemps. Et puis avec des gens qui arrivent ou qui partent, mais qui arrivent à Paris, là où il est. Vis-à-vis de sa production poétique, en poésie ou autre, est-ce qu'il y a quelque chose de saisissable
dans son engagement politique?
Est-ce que ça se voit dans sa production?
Oui, oui, quand même, oui, ça oui, oui. Et ça se voit, il y a par exemple dans le dernier recueil, c'est pas immédiat, c'est pas direct, mais il y a effectivement une sorte de critique, à mon sens très très nette, et qui tient à son engagement politique en tant qu'homme de lettres, sur l'évolution qu'ont les gouvernements, certains gouvernements, et bon, c'est repérable hein, dans sa poésie. Et ça apparaissait déjà à travers le recueil Chaos, où effectivement là il parle déjà de, mais c'est pas limité aux pays arabes, je trouve, c'est transposable dans beaucoup de lieux. Et effectivement dans son dernier recueil, c'est comme regarder le monde, quoi, regardez-le et voyez ce qui s'y passe. Donc évidemment il y a le monde arabe qui lui parle beaucoup, et donc il en parle beaucoup. Mais il y a aussi, il a fait des tombeaux de New York ou des poèmes sur d'autres villes du monde, et avec des sortes de comment je vais dire, des pensées engagées qui reviennent. Oui. Mais envers.
Dans ses interviews, dans ses entretiens que j'ai lus, il est aussi très critique envers les dissidents.
Ah oui, oui.
Il est critique envers tout le monde.
Oui, oui.
Mais les dissidents aussi, ils pensent que la plupart n'ont rien compris des vrais enjeux.
C'est vrai. Il dit toujours que mettre un système à la place d'un autre n'est pas une solution. Oui. Oui, oui, parce que ça reste une fermeture, une façon de ne pas voir, de ne pas être libre, profondément. Alors, bien sûr, il y a différentes échelles de liberté, mais oui, il le dit ça, oui. Et donc, oui, il n'est pas pour une révolution qui change, qui remplace un système par un autre. Il est pour la liberté de l'individu consciente, enfin, consciente, je ne sais pas si aujourd'hui ce mot est. Est très très apprécié chez nous, mais oui. Et c'est vrai que pour moi, ça reste la preuve que quand sa poésie pose des questions, mais aussi semble, c'est comme s'il y avait des obstacles, et que les difficultés à le lire sont des difficultés à voir ce qui s'esquisse. Voilà, dans d'autres sciences quand même, et je sais que pour avoir fréquenté, mais de manière timide, d'autres sciences, que parfois, ben, je trouve quand ce que j'ai dit au congrès à Cluj devant d'autres personnes dans ce congrès transdisciplinaire, il y a de la difficulté en sciences humaines, en lettres, puisque je suis en littérature, à imaginer la réalité telle qu'elle est décrite et définie par les scientifiques aujourd'hui, pas au XXe siècle. Ça, c'était, et donc on est dans des binarismes réels, fictifs, qui sont pour un physicien tout à fait étonnants. Ça ne veut rien dire. Et c'est troublant pour nous. Je pense que la poésie d'Adonis est de cet ordre. Elle ne propose pas une poésie à partir d'une pensée mais elle propose plutôt une poésie expérimentative et qui est d'exercice, quoi. Exercice, s'exercer soi-même à lire.
J'ai une question. Sur un exercice concret qui est celui de la traduction.
Oui.
Parce que précisément là, oui. Tu es dans une situation de
d'exercice.
D'exercice.
Oui.
Physique, donc, et sans cadre conceptuel, enfin, face à
c'est
un texte
ça.
À
c'est, traduire, c'est ça.
Et justement, je trouve que Adonis a eu plus de traductrices que de traducteurs.
Oui.
Et ça fait partie du dialogue, et je me souviens. Lorsque tu as dit sur la liberté qu'il te donne, ça c'est très important. Je tiens que Vénus Corrigata était venue, elle avait parlé de traduction en disant que c'est rapidement qu'elle enlevait beaucoup de métaphores. Que quand elle traduisait.
Oui, je l'ai entendu dire ça aussi, oui.
Quand elle traduisait, elle sentait le besoin de. Voilà, donc c'est comme ça que spontanément, en reproduisant quelque chose. Quand même, pour moi, est un cliché sur la poésie arabe, mais qui est une réalité, c'est-à-dire son usage de la métaphore, et que en langue française, eh bien, voilà. Tu as indiqué quelques mots, mais comment se passe ce processus de traduction, de dialogue autour des traductions? Parce que là, précisément, il y a un rapport
très concret.
Très concret.
C'est vrai.
Un exercice.
Ouais. Eh bien, d'abord, ça demande chez lui, chez Adonis, l'idée que ça ne lui appartient pas. Et que c'est pas, qu'il n'est pas propriétaire d'une. Il est responsable de sa poésie, de ce qu'il a écrit, mais pas propriétaire, à mon sens. Il n'a pas cette possessivité, je ne la sens pas du tout. Et effectivement, comme Vénus le dit, je pourrais, je crois, aller beaucoup plus loin dans la réécriture si pour lui je suis convaincue que c'est la meilleure manière d'exprimer, il me laissera la liberté de l'exprimer ainsi.
C'est assez. Il y a des échanges. Par le texte que tu traduis.
Tout à fait. Alors je lui donne. Je lui donne ce que je traduis et en général en marge. Il me dit, là, tu as dit tel mot. Alors, par exemple, c'était un mot que j'avais du mal qui m'a fait travailler, parce que la métaphore était très, très forte, et je trouvais que dans l'ensemble du poème, ça faisait bizarre dans ce vers, à ce moment-là. Il parlait des villes. Il y a effectivement une. Il parlait des vulves en arabe, des villes. Et j'ai dit, mais bon, l'image est un peu. Alors, elle arrivait dans un poème à un moment donné où on ne s'y attendait pas forcément. Moi, j'ai dit, bon, à la place de mettre vulve, j'ai traduit par. J'ai oublié, peut-être un. Ouverture interstice, j'ai plus. J'ai essayé de trouver un truc qui allait avec le reste. Et il me met en marge vulve, le mot en arabe, puis vulve à côté. Et dans l'échange, il me dit, oui, là, alors là, tu as trouvé ça, mais tu trouves que tu as mis ce mot, tu es gêné ou tu as, l'image est trop forte et qu'est-ce que tu en penses? Et quand je lui ai dit, ben, c'est-à-dire qu'au début du poème, on n'était pas du tout dans une description de, on ne parle pas de femme, il n'y avait pas d'évocation, c'était une ville qu'il décrivait, je crois, de Chine, enfin, il y avait vraiment un paysage en plus où, c'était plutôt horizontal, il définissait. Et là, soudainement, on voit. Après, je dis, mais je ne comprends pas trop dans la. Et donc, il me dit, non, tu fais comme tu veux, j'y tiens pas forcément, quoi. Et je l'ai écrit en essayant de voir si à un autre moment on pouvait trouver des échos qui. Parce que c'était pour moi une image qui arrivait dans le milieu du poème. Et qui était très, mais très surréaliste, en fait, très, très étonnante, très. Ça arrête la pensée immédiatement, et on se dit, tiens, on essaye de mettre les deux ensemble, de superposer les deux, la ville et la vulve, et on se dit, mais voilà, il y avait quelque chose, l'image ne me parlait pas à moi, l'image parle. Et puis, voilà, au final, j'ai changé un peu ma façon de voir dans le dialogue. Et...
Il y a un aller-retour.
Il y a un aller-retour. Il suggère. Il suggère, oui, quand il... Mais il ne m'a jamais... Il ne relit pas après. Par exemple, la traduction que j'ai publiée en avant-première, là, dans, ce... dans cette revue, donc c'est un chapitre, il ne l'a même pas... Il l'a pas... On n'a pas corrigé. Enfin, on pas... ne s'est pas vu, quoi. Je l'ai relu, et... mais on ne s'est pas vu, non, pour dire... Il a apprécié et il a dit « Allons-y, non ».
Il vous a jamais dit « Je ne suis pas d'accord avec ce mot-là, c'est pas possible ».
Non. Okay. Non. Et c'est très étonnant. C'est même parfois pas facile, trop de liberté. On n'est pas habitué. Justement, pas de cadre. Pas de cadre dans la traduction.
Pas de traduction.
Mais je pense que voilà, ça vient d'une autre manière de vivre la poésie.
Je remercie beaucoup Bénédicte et les échanges avec les collègues, les amis. Merci beaucoup à Suzanne Boris de nous avoir permis d'inviter Bénédicte pour cette séance commune entre Judith Dujean et Jeanne Hermed. Et merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. Merci beaucoup.
Merci.